Deux remarques préalables. La première, mais je suppose que ça a déjà dû être dit ce matin, et je vais me répéter, le sentiment que j'ai, alors que je suis à la retraite, c'est qu'effectivement le renouvellement fait partie de notre ADN. C'est quelque chose qui est vraiment inscrit au tréfonds de la mentalité, mais pas uniquement des enseignants. La société française accepte le redoublement beaucoup plus que d'autres sociétés, pour avoir pas mal voyagé. Et j'ai eu souvent le sentiment, le mot risque de vous choquer, mais d'être face à ça, de rencontrer parfois des attitudes négationnistes. C'est-à-dire que plus on explique que le redoublement est inefficace, et plus on entend des gens « mais on ne vous croit pas ». On ne vous croit pas parce que nous, on sait que c'est efficace. Puisqu'on a un cousin, un fils, un parent, un grand-père qui a redoublé, qui a obtenu son examen. Donc c'est bien la preuve que ça marche. Première remarque. Deuxième remarque, je suppose que ça a été dit aussi, plus optimiste celle-ci, c'est qu'effectivement, j'ai regardé les chiffres ce matin, donc merci de m'avoir replongé dans un dossier qui est pour moi déjà ancien, il y a une chute spectaculaire quand même du redoublement. Depuis la fin des années 90, en gros, depuis le milieu des années 2000. Alors, bien entendu, j'ai retrouvé, Olivier Rey a fait allusion, j'ai présidé pendant quelques années le Haut Conseil de l'évaluation de l'école, et nous avons produit, en décembre 2004, mais je crois que ça a été rappelé, suite à un rapport de messieurs Paul et Troncin, qui sont dans la salle, je crois, enfin, je ne crois pas, j'en suis sûr, je les ai vus, un avis, l'avis numéro 14, que j'ai ici. Le redoublement permet-il de résoudre les difficultés rencontrées au cours de la scolarité obligatoire ? Et l'avis était globalement non. Et j'ai relu cet avis attentivement hier après-midi, ce matin, et je peux vous dire, et donc je ne vais pas me répéter, que je signe aujourd'hui, donc 10 ans après, cet avis rédigé par mon ami Jean-Claude Aymin et moi-même, donc il y a 10 ans. Je crois que nous disions déjà à peu près tout ce que nous pouvons répéter aujourd'hui sur l'inefficacité, voire la dangerosité du redoublement. À un détail près, qui est important quand même, c'est que cet avis s'est écrit, je pense que beaucoup d'entre vous l'ont lu, portait bien, disait bien qu'on parlait du redoublement à l'école et au collège. Et on ne parlait pas du redoublement au lycée, qui à mon avis relève d'une autre logique. Pour la petite histoire, mais c'est la petite histoire, il se trouve que cet avis a été rendu quelques semaines après seulement une prise de fonction de ministre, qui malheureusement, j'enlève le malheureusement d'ailleurs, dès ses premières semaines de prise de fonction, avait dit tout le bien qu'il pensait du redoublement. Et je devais lui rendre la visite naturelle de courtoisie que rend le président du Haut Conseil d'évaluation de l'école à un nouveau ministre. Et je lui dis, monsieur le ministre, en plus j'entretiens toujours avec ce ministre des relations qui sont plutôt courtoises, monsieur le ministre, je suis obligé de vous dire que le Haut Conseil d'évaluation de l'école va rendre un avis dans quelques semaines sur le redoublement, et il me coupe, il me dit, et je sais ce que vous allez dire, que ça ne sert à rien, que c'est inefficace, etc. Monsieur le ministre, je ne peux pas préjuger de ce que sera l'avis du Haut Conseil, mais la probabilité est assez forte. Il m'a dit, oui, mais je ne vous crois pas. Je ne vous crois pas parce que moi, effectivement, et ma sortie. Donc voilà, c'est pour vous dire que la cause était effectivement entendue d'avance. Alors, je ne vais pas répéter du tout, surtout en un quart d'heure, ce qui a été rendu dans cet avis numéro 14, auquel je renvoie tout. Et c'est vrai que c'est Nathalie Immons qui m'a, il y a quelque temps, poussé un peu dans mes retranchements en disant « Mais est-ce qu'on ne peut pas aller au-delà de cet avis ?» et se poser des questions sur... Je dirais, qu'est-ce qu'il y a dans le système ? Et ça a été, alors, très bien, avec beaucoup de recul évoqué par le proviseur de cet établissement, qu'est-ce qu'il y a dans le système qui pourrait éventuellement pousser au redoublement, en dehors de ce que j'ai dit déjà depuis le début, à savoir la pression culturelle. Bon, ça y est, on sait qu'il y a dans ce pays une culture du redoublement, une culture de la confiance au redoublement, qui est fondée, d'ailleurs... sur quelque chose de très particulier. Nous sommes convaincus dans cette maison que l'élève, quel que soit son âge, j'insiste bien sur quel que soit son âge, a une part importante de responsabilité dans son échec. Et c'est ça, je crois, qui fonde notamment le redoublement à l'école primaire. Si on le distingue de ce qui se passe dans d'autres pays, c'est que nous, même un enfant de 5 ans, même un enfant de 6 ans qui est en difficulté de lecture, nous partons du principe qu'il a une part de responsabilité dans son échec. Et donc, il faut quelque part le punir. Donc, comme il n'aime pas la soupe, on lui remet une deuxième assiette. Donc, il y a effectivement ceci. Et il y a aussi, je devrais aborder effectivement avec les responsabilités classiques, le problème des rythmes scolaires. Je ne l'aborderai pas, mais c'est vrai que si ce n'est le rythme scolaire, du moins les rythmes d'apprentissage, et notamment les difficultés à mettre en place les cycles d'apprentissage, ont joué un rôle non négligeable dans cette politique de redoublement. Mais au-delà de ça, il y a incontestablement, et ça vient d'être encore une fois dit avec un mélange de cynisme et d'humour, des intérêts corporatistes. Des intérêts corporatistes qui ne sont pas du tout évoqués dans l'avis numéro 14 du Conseil, parce que nous ne voulons pas l'aborder. Je rappelle quand même, c'est important quand même, parce qu'il faut voir en positif cet avis du Haut Conseil, donc en 2004, comme tous les avis du Haut Conseil d'ailleurs, a été adopté à l'unanimité du Haut Conseil. C'est-à-dire les 33 ou 34 membres du Haut Conseil qui étaient présents, représentants des parents, représentants des enseignants, représentants des élus, enfin, experts, les 34 personnes qui composaient le Conseil, ont toutes donné leur accord sur l'avis qui a été rendu ce jour-là. Il est probable que si nous avions abordé l'aspect, j'allais dire corporatiste, peut-être nous aurions eu quelques difficultés à obtenir cette unanimité. Et puis, il y a, c'est anecdotique peut-être, mais moi, j'ai croisé dans ma route de hauts fonctionnaires un peu de malhonnêteté intellectuelle quand même. J'appelle malhonnêteté intellectuelle, alors, c'est des cas rares, limités, on va dire, à quelques établissements bien précis, mais je considère comme malhonnêteté intellectuelle de dire « redoublez votre seconde, vous aurez plus de chances de faire une première S ». On a entendu ça. Mensonge total. Redoublez votre première, vous aurez plus de chances d'avoir une mention en terminale. Donc, plus de chances d'intégrer une prépa. J'ai même connu pire. À Paris, ça n'existe plus. J'ai le bac, je le redouble pour avoir une mention, parce que la première fois, j'ai eu la mention passable. Non, ça n'existe plus. Alors, les aspects corporatistes, qui sont plus importants que les exemples que je viens de citer. Les aspects corporatistes, j'avais prévu un développement, mais je vais dire, monsieur le proviseur, vous avez brillamment, je dirais, expliquer ce que j'allais dire avec des chiffres. Dans un système qui est financé à l'élève, plus il y a d'élèves, plus on touche d'argent. C'est aussi simple que ça. Donc, deux cas, prenons l'école primaire. Alors, l'école primaire n'est pas financée au H sur E, mais à la structure. Et nous savons très bien, il ne faut pas se raconter d'histoire, qu'il y a eu des classes et qu'il y a eu des redoublements qui servait à justifier des non-fermetures de classe. N'oubliez pas, quand même, j'ai regardé encore ce matin, que 22% de nos classes, de nos écoles publiques, sont à une ou deux classes. Et je regarde devant moi la rectrice de l'académie, je crois, qui doit être la plus concernée. Nous avons encore 3000 classes uniques. 3000 classes uniques. Personne ne croira un instant que ça ne joue pas. Quand on sait que le maintien de la classe unique se joue à un ou deux élèves, c'est tellement facile de faire un redoublement de CM2 qui empêche la fermeture de la classe. Pareil au collège. 40 collèges, encore en France, ont moins de 100 élèves. 800 ont moins de 300 élèves. Un collège de 300 élèves, j'ai fait le calcul, c'est 20 ETP. C'est pas grand-chose, 20 ETP. C'est même pas un ETP d'art et même pas un ETP d'art plastique. Je vous laisse deviner, à tous ceux qui sont sur le terrain, tous les effets pervers que ça peut induire. Et ça a bien été dit, dans un collège 5 ou 600, on peut arriver comme ça à perte de division. Donc le financement au H sur E sur le collège est incontestablement, je dirais, un pouce au crime. Un pouce au crime, ce qui m'avait amené d'ailleurs à suggérer, mais ensuite j'ai quitté les fonctions à Versailles, quand j'avais pris les fonctions. À Versailles, c'est intéressant, quand j'étais arrivé avec l'Union de Versailles, c'était en 98, j'avais constaté, et on voit bien là, ce que peut produire l'absence de pilotage politique. Il n'y avait pas eu de politique. Le sujet n'avait pas été abordé à Versailles. Quand j'arrive à Versailles, Versailles a le record du redoublement à tous les niveaux, du CP à la terminale. C'est troublant, parce qu'on pourrait imaginer que plus de redoublement en primaire, fait moins de redoublement au collège et qu'à contrario, moins de redoublement en primaire en fait plus au collège. Ben non, Versailles était recordman de France métropolitaine sur tous les niveaux parce qu'on avait laissé la politique du chien crevé au fil de l'eau. Une remise, je dirais, une remise d'équerre, une circulaire, une mobilisation des chefs d'établissement et des IEN, et en une rentrée, on fait baisser pratiquement de 4 à 5 points le taux de redoublement sur tous les niveaux. Donc, incontestablement, et alors c'est là où j'avais eu l'idée, mais je n'ai pas eu le temps de la mettre en œuvre, de dire, et si on ne finançait plus leur doublant ? Si on ne finançait plus leur doublant, donc on les sort de la dotation horaire globale. Alors, c'est violent comme méthode. Alors, mais je vous rends tout ou partie de cette dotation que je vous ai emmenée si vous me proposez un projet alternatif. Rien si vous proposez rien, tout si vous proposez quelque chose qui prenne en charge l'ensemble des redoublants. Je n'ai malheureusement pas eu le temps de tenter, mais j'ai dit l'autre jour à plusieurs, je crois que ça a été tenté dans l'académie de Rennes. Il me semble, il y a quelques temps, j'ai vu William Marois, je ne sais pas s'il pourra confirmer, mais je sais qu'à un moment, la Camille de Rennes voulait le tenter. Alors, on me fait signe d'aller très vite. Je voulais aborder quand même le problème du lycée. Le problème du lycée, bon, déjà pour bien montrer que le redoublement n'est pas neutre, surtout le redoublement amont, puisqu'il va jouer un rôle très important dans l'orientation au lycée. Je ne vais pas vous abreuver de chiffres, mais en seconde générale et technologique, 75% d'élèves à l'heure, 25% d'élèves en retard. En seconde pro, 20% d'élèves à l'heure, 80% d'élèves en retard. La messe est dite. Mais ça va plus loin. En première générale, 70% à l'heure, 30% en retard. En première techno, 20% à l'heure, le reste en retard. Vous voyez, à tous les niveaux du lycée, fin de seconde, fin de troisième, fin de seconde, l'âge joue. L'âge va faire que vous irez en seconde générale technologique plutôt qu'en seconde professionnelle, et ensuite que vous irez en première générale plutôt qu'en première technologique. C'est pas neutre. Deuxième remarque, la structure des lycées. Je ne sais pas si vous avez bien vu, mais la structure des lycées a beaucoup changé. Aujourd'hui, le lycée, j'allais dire, monocolore a quasiment disparu. Le lycée général, vous le trouvez à Paris, intramuros. Je ne sais même pas ici s'il est... Oui, ici encore, oui. Voilà. Mais vous le trouvez à Paris, intramuros. Vous le trouvez dans les grandes villes de France, Lyon, Marseille, etc. Vous ne le trouvez plus ailleurs. Académie de Créteil, zéro. Académie de Créteil, pas un seul lycée général. Académie de Versailles, il doit rester deux, je crois. Lycée Hoche et puis un autre. La Bruyère ne l'est plus. La Canale ne l'est pas. Non, non. La Canale a du technologique tertiaire. Donc, c'est vrai que, et je le dis d'autant plus, que j'ai contribué, pour ce qui me concerne, à développer ce concept de polyvalence des lycées. En disant, plus un lycée est polyvalent, sous réserve qu'il ait la taille critique, plus on a de chances de pouvoir avoir des parcours diversifiés, de maintenir les élèves dans leur structure, etc. Et c'est ce qui s'est passé. Et je pense qu'aujourd'hui, le fait que la structure la plus répandue en France, vous le savez, je pense en lycée, c'est L, E, S, S, ST2G, STS, tertiaire. Le rassemblement de ces cinq formations, les trois formations générales, la formation technologique tertiaire, plus le BTS tertiaire, constitue la structure la plus fréquente dans l'ensemble des structures qu'on rencontre en lycée. Avantage considérable, je pense effectivement que ça a contribué à faire baisser le redoublement. Mais j'ai envie de dire à quel prix. J'ai envie de dire à quel prix, incontestablement, certains m'ont déjà entendu le dire plusieurs fois, je pense que notamment la série technologique tertiaire a joué et continue à jouer un rôle de variable d'ajustement. C'est ce qui permet la préservation de l'espèce. Et j'avais un jour expliqué à un autre ministre qui voulait mettre des sections technologiques dans les grands lycées parisiens, oui aux sections industrielles, non aux sections tertiaires. Le plus grand lycée parisien, enfin le plus grand, le plus connu, celui qui a le plus grand rayonnement, à ma connaissance, a 10 secondes. Il a 10 secondes avec 25 élèves repérés depuis la maternelle. Vous lui ouvrez une section, vous lui ouvrez une première ST2G. il va trouver les 20 élèves, deux par division, plus mauvais que les autres, qui feront la première ST2G. Et voilà comment le système fonctionne. Donc, à partir de là, il y a quand même un sujet sur lequel on est obligé de s'interroger, et c'est pour ça que je ne mettrai pas dans le même sac le redoublement à l'école primaire et au collège, dont vous avez dû débattre ce matin, dont vous débattrez cet après-midi, ou sur lequel tout a été dit, et qu'est-ce qui se passe au lycée ? Au lycée, j'ai envie de dire, on a le choix entre deux mots, je dirais ce mot sur l'âge, mais c'est même ce qui reste quand même, je crois, une des grandes difficultés de ce pays, qui continue, j'ai regardé ce matin, à avoir 33% d'une génération qui est au bac général, c'est-à-dire le même chiffre qu'il y a 10 ans, le même chiffre qu'il y a 20 ans, pardon. En 20 ans, on n'a pas gagné 1% d'élèves de plus dans la voie générale. On a tout fait par la voie professionnelle et par la voie technologique. Je le dis souvent, on a préservé l'espèce. On a préservé l'espèce. Et dormez tranquille, bonnes gens, j'ai regardé ce matin, en préparatoire, toute préparatoire convenue, donc y compris avec les prépas technologiques, moins de 7% d'élèves ont redoublé. Voilà.